Chapitre 12. Au-dessus de la ceinture des astéroïdes. Le vaisseau entama sa décélération presque aussitôt après être sorti de la magnétosphère jovienne, de sorte qu'il lui faudrait plusieurs jours et non quelques heures pour décrire la parabole censée le conduire jusqu'à Mars, par-dessus le plan de l'écliptique. Ce qui convenait à Manmuth et à Orfudio car ils avaient plein de choses à se dire. Peu après le départ, Ripo et Coros 3 annoncèrent depuis la passerelle qu'ils déployaient la voile de bord. Manmuth accéda au capteur pour regarder la voile circulaire se déplier et s'enfler à 7 km du vaisseau, retenue à celui-ci par 8 câbles de fulrène, se déployant jusqu'à atteindre son rayon maximal de 5 km. Sur l'image vidéo transmise de la poupe, on aurait dit qu'un disque noir venait de se découper dans le firmament. Orfudio sortit de sa crèche creusée dans la coque pour s'accrocher au câble principal, puis il longea le torse solénoïdal et se mit à courir sur tous les câbles de soutien, tel un Quasimodo version Limule, dont la tâche aurait été de contrôler les matériaux, se posa ensuite sur les jets surplombant la toile pour chercher tout signe de fêlure, de rupture, d'imperfection. Il ne trouva rien d'anormal et regagna le vaisseau avec la grâce empreinte d'assurance d'un vétéran de la gravité zéro. Coros 3 ordonna la mise à feu du collecteur magnétique Maltov-Fenelli modifié, et Manmuth enregistra une altération des énergies de bord à mesure que l'appareil fixé à la proue générait un champ de collectage dont le rayon finit par atteindre 1400 km et qui ramassait les ions égarés et se concentrait sur sa récolte de vent solaire.
Combien de temps allons-nous devoir décélérer pour pouvoir nous arrêter au niveau de Mars ?
Demanda Manmuth sur le canal général, pensant que ce serait Orfu qui répondrait. Mais ce fut l'impérieux Coros 3 qui s'en chargea.
À mesure que la vélocité du vaisseau diminue et que l'air de collectage efficace augmente, et à condition que la température de la voile soit maintenue en deçà de son point de fusion, à savoir 2000 degrés Kelvin, la masse du vaisseau sera égale à 4 kg multiplié par 10 à la puissance 6, et par conséquent, pour que nous puissions passer de notre vitesse actuelle, c'est-à-dire 0,1992 C, à une vitesse de 0,001 C, le point de collision inélastique, il nous faudra 23,6 années.
23,6 années standard ?
S'exclama Manmuth sur le canal général. C'était plus de temps qu'il n'en souhaitait pour une petite discussion.
Notre vitesse à l'arrivée serait donc de 300 km par seconde, ce qui est encore beaucoup,
reprit Coros 3.
Un millième de la vitesse de la lumière, ça peut être risqué dans le système intérieur.
Nous risquons d'être secoués lors de l'atterrissage sur Mars,
commenta Manmuth. Orfu réagit par un bruit qui tenait du grondement et du reniflement. Le navigateur Calistan intervint alors.
« Nous ne comptons pas seulement sur la voile de bord pour déterminer notre décélération, Manmuth. Le voyage proprement dit va durer un peu moins de 11 jours standard, et notre vélocité lorsque nous entrerons dans l'orbite de Mars sera inférieure à 6 km par seconde. »
« C'est mieux !»
Manmuth se trouvait dans le berceau de contrôle de la Dame Noire, mais tous ses capteurs familiers étaient aveuglés. Exception faite des données relatives à ses propres systèmes de survie, il dépendait des capteurs du vaisseau pour recevoir ces informations.
Quelle est la raison de cette différence ?
S'enquit-il.
Le vent solaire,
répondit Orfu sur la ligne de la crèche de coque.
Dans cette région, sa vitesse est d'environ 300 km par seconde, et sa densité ionique est de 10 puissance 6 protons par mètre cube. Nous sommes partis avec un réservoir à moitié plein d'hydrogène jovien, et au quart plein de déthérium, et nous allons en collecter davantage dans le vent solaire grâce au système Maltov-Fenelli, ce qui nous permettra d'activer les fusiopropulseurs juste après avoir passé le soleil. C'est là que débutera la phase de décélération proprement dite.
« Je suis impatient de voir ça, »
déclara Manmuth.
« Moi aussi, »
répliqua Orfu. Il émit une nouvelle fois ce mélange de grondements et de reniflements. Manmuth songea que le gigantesque Moravec était imperméable à l'ironie ou qu'il la maîtrisait trop bien. Manmuth lut à la recherche du temps perdu pendant que le vaisseau passait 140 millions de kilomètres au-dessus de la ceinture des astéroïdes. En même temps que le roman et des informations biographiques sur Proust, Orfu lui avait téléchargé le langage français classique, avec toutes ses subtilités, mais Manmut préféra lire 5 traductions anglaises différentes de la recherche, car c'était sur l'anglais qu'il s'était concentré durant ses 150 années d'études, et il se sentait plus à l'aise avec cette langue. Orfu partit d'un léger gloussement et rappela au petit Moravec que ce serait une erreur de comparer Proust à son Shakespeare bien-aimé, qu'ils étaient aussi différents que le monde terraformé vers lequel ils se dirigeaient l'était des lunes joviennes qui leur étaient si familières, mais Manmut préféra s'en tenir à l'anglais. Une fois sa tâche achevée, il avait conscience de n'avoir effectué qu'une lecture superficielle, mais il était impatient d'entamer le dialogue. Il contacta Orfu par faisceau cohérent, le Moravec ionien étant sorti de sa crèche pour contrôler une nouvelle fois les câbles de la voile, solidement ancrés cette fois eu égard à la décélération croissante.
« Je ne sais pas, » commença Manmut, « je ne vois pas où est l'intérêt. Cela ressemble à mes yeux aux rêveries alambiquées d'un esthète. »«
D'un esthète ?»
Orfu fit pivoter l'une de ses antennes pour se caler sur le faisceau, pendant que ses manipulateurs et ses flagelles s'affairaient à souder un connecteur de câble. Pour Manmut, qu'il observait sur une image vidéo, l'arc électrique ressemblait à une étoile brillant sur fond de voile noire derrière la lourde masse d'Orfu.
Manmut, veux-tu parler de Proust ou de son narrateur Marcel?
Il y a une différence.
Alors même qu'il lançait cette répartie sarcastique, Manmut se savait de mauvaise foi. Au fil des 12 dernières années T, il avait envoyé à Orfu des centaines, voire des milliers, de courriels expliquant la différence entre le Will des Sonnets et le personnage historique nommé Shakespeare. L'œuvre de Proust, si abstruse et si impénétrable soit-elle, était sûrement d'une égale complexité pour ce qui était de l'identité de l'auteur et des personnages. Orfu ne releva pas et répondit.
Reconnais quand même que tu as apprécié la vision comique de Proust. C'est avant tout un écrivain comique.
Quelle vision comique? Je n'ai pas vu beaucoup de comédie là-dedans.
Cette fois-ci, il était sincère. Le sens de l'humour humain ne lui était pourtant pas étranger, pas plus qu'au Moravec en général. Même les premiers robots astronautes, pas très futés en dépit de leur capacité auto-évolutive, avaient été programmés pour comprendre l'humour lors de leur création par l'espèce humaine avant la pandémie Rubicon. Il est impossible d'établir une véritable communication avec un humain, c'est-à-dire une communication symétrique, si on n'a pas le sens de l'humour. L'humour est aussi humain que la colère, la logique, la jalousie ou la fierté. Autant d'éléments présents dans l'interminable roman de Proust. Mais pouvait-on dire pour autant que celui-ci était un écrivain comique et ses protagonistes des personnages comiques? Manmut ne le pensait pas, et si Orfu avait raison, c'était de sa part une grave lacune. Car Manmut avait passé des décennies à traquer satire et jeux de mots dans le théâtre du Barde, à mettre au jour jusqu'à la plus dérisoire des ironies dans ses sonnets.
« Écoute, »
dit Orfu en courant le long d'un câble de fulrène pour regagner le vaisseau, faisant pulser ses micro-tuyères.
« Relis donc ce passage d'un amour de Swann. Celui où Swann, esclave des caprices de la volage Odette, utilise toutes ses ressources en matière de chantage affectif pour l'empêcher de se rendre seul au théâtre. Écoute bien l'humour en action, mon ami. »
Il téléchargea le texte. « Je te jure, » lui disait-il quelques instants avant qu'elle partît pour le théâtre, « qu'en te demandant de ne pas sortir, tous mes souhaits, si j'étais égoïste, seraient pour que tu me refuses, car j'ai 1000 choses à faire ce soir, et je me trouverais moi-même pris au piège et bien ennuyé si, contre toute attente, tu me réponds que tu n'iras pas. Mais mes occupations, mes plaisirs, ne sont pas tout. Je dois penser à toi. Il peut venir un jour où, me voyant à jamais détaché de toi, tu auras le droit de me reprocher de ne pas t'avoir averti dans les minutes décisives où je sentais que j'allais porter sur toi un de ces jugements sévères auxquels l'amour ne résiste pas longtemps. Vois-tu, une nuit de Cléopâtre, quel titre, n'est rien dans la circonstance. Ce qu'il faut savoir, c'est si vraiment tu es cet être qui est au dernier rang de l'esprit,
et même du charme, l'être méprisable qui n'est pas capable de renoncer à un plaisir. Alors, si tu es cela, comment pourrait-on t'aimer? Car tu n'es même pas une personne, une créature définie, imparfaite, mais du moins perfectible. Tu es une eau informe qui coule selon la pente qu'on lui offre, un poisson sans mémoire et sans réflexion qui, tant qu'il vivra dans son aquarium, se heurtera 100 fois par jour contre le vitrage qu'il continuera à prendre pour de l'eau. Comprends-tu que ta réponse, je ne dis pas, aura pour effet que je cesserai de t'aimer immédiatement, bien entendu, mais te rendra moins séduisante à mes yeux quand je comprendrai que tu n'es pas une personne, que tu es au-dessous de toutes les choses et ne sais te placer au-dessus d'aucune. Évidemment, j'aurais mieux aimé te demander, comme une chose sans importance, de renoncer à une nuit de Cléopâtre, puisque tu m'obliges à me souiller les lèvres de ce nom abject, dans l'espoir que tu irais cependant. Mais décidé à tenir un tel compte, à tirer de telles conséquences de ta réponse, j'ai trouvé plus loyal de t'en prévenir. Odette, depuis un moment, donnait des signes d'émotion et d'incertitude. À défaut du sens de ce discours, elle comprenait qu'il pouvait rentrer dans le genre commun des laïus et scènes de reproche ou de supplication, dont l'habitude qu'elle avait des hommes lui permettait, sans s'attacher aux détails des mots, de conclure qu'ils ne les prononceraient pas s'ils n'étaient pas amoureux, que du moment qu'ils étaient amoureux, il était inutile de leur obéir, qu'ils ne le seraient que plus après. Aussi aurait-elle écouté Swann avec le plus grand calme si elle n'avait vu que l'heure passait et que pour peu qu'il parlât encore quelque temps, elle allait, comme elle le lui dit avec un sourire tendre, obstiné et confus, finir par manquer l'ouverture. Manmuth éclata de rire dans l'espace confiné de la salle de contrôle pressurisée de la Dame Noire. Il comprenait à présent. L'humour de ce passage était étincelant. La première fois qu'il l'avait lu, il s'était concentré sur l'émotion humaine qu'on appelait jalousie et sur les efforts que déployait Swann afin de manipuler le comportement d'Odette. Maintenant, tout était clair. Merci, dit-il à Orphue tandis que le Moravec en forme de gigantesque limule s'installait dans sa crèche. Je crois que je capte l'humour désormais. Et je l'apprécie. Tout est différent de Shakespeare, que ce soit le ton, le langage ou la structure, mais il y a quelque chose de semblable.
La même obsession pour cette énigme qu'est la nature humaine, suggéra Orphue. Ton Shakespeare examine toutes les facettes de l'humanité par l'intermédiaire des réactions de ses personnages aux événements, dégageant leurs pensées profondes en fonction de leurs actes. Les personnages de Proust explorent les profondeurs de la mémoire en quête des mêmes facettes. Peut-être ton barde ressemble-t-il à Coros III, le chef de cette expédition en territoire inconnu. Mon cher Proust est davantage semblable à toi, emmailloté dans le cocon de la Dame Noire et plongeant dans les profondeurs pour cartographier les récifs, les fonds marins, leurs habitants et le monde tout entier au moyen de l'écholocation.
Manmuth médita sur cette comparaison pendant de longues nanosecondes.
Je ne vois pas comment ton Proust a résolu cette énigme, ou plutôt comment il a tenté de la résoudre autrement que par une immersion dans la mémoire.
Pas seulement dans la mémoire, ami Manmuth, mais dans le temps.
À des dizaines de mètres de là, protégé par la quasi-invulnérabilité, par la double coque impénétrable de son submersible et par celle du vaisseau spatial qui le transportait, Manmuth eut l'impression que l'Ionien venait de le toucher d'une façon aussi intime que profonde.
« Le temps est séparé de la mémoire »,
marmonna-t-il sur leur ligne privée, s'adressant surtout à lui-même.
« Mais la mémoire est-elle jamais séparée du temps ?»«
Précisément !» tonna Orphue. « Précisément !» Les protagonistes proustiens, notamment le jeu, le narrateur, mais également ce pauvre Swann, se voient donner à 4 reprises la chance de résoudre la grande énigme de la vie. Leurs 4 tentatives échouent. Mais l'histoire est néanmoins un succès, et ce, en dépit des échecs de son narrateur et même de son auteur.
Manmuth s'abîma dans une longue réflexion. Il bascula d'une caméra extérieure à l'autre, contemplant les complexités du vaisseau et de sa terrifiante voile circulaire, en orientant sa vision vers le bas,
vers les cailloux, vers la ceinture. Il demanda l'agrandissement maximal des images et l'obtint. Un astéroïde solitaire déboulait dans les ténèbres. Il n'y avait aucun danger de collision. Non seulement leur vaisseau filait 150 millions de kilomètres au-dessus du plan de l'écliptique et traversait la ceinture à une vitesse inouïe, mais en outre, cet astéroïde, une requête adressée aux banques d'astrogation de Ripo, l'identifia comme étant Gaspra, s'éloignait de leur trajectoire. Il s'agissait néanmoins d'un micromonde de belle taille, 20 km sur 16 sur 11 d'après les données, et l'image qu'il en avait, identique à celle qu'il aurait obtenue en l'observant à l'œil nu à 16 000 km de distance, était celle d'une patate aux contours rugueux et à la surface piquetée de cratères. De plus, et cela était fort intéressant, cette surface laissait apparaître des éléments artificiels. Lignes droites taillées dans la roche, lumière dans les cratères obscurs, maillage de sources lumineuses sur le nez aplati de l'astéroïde.
Des Rogvec,
dit doucement Orfu, qui de toute évidence était branché sur la même source vidéo.
Ils sont quelques millions dispersés dans la ceinture.
Sont-ils aussi hostiles qu'on le dit?
Aussitôt qu'il eut posé cette question, Manmuth redouta de passer pour un anxieux.
Je l'ignore. Je subodore que oui. Ils ont choisi d'évoluer dans une culture bien plus compétitive que celle que nous avons créée. Il paraît qu'ils craignent et méprisent les postes humains et qu'ils détestent carrément les Moravec que nous sommes. Quant à leur prétendue férocité, Koros III est peut-être à même de la confirmer.
Koros? Comment cela?
Rares sont les Moravec à en avoir été informés, mais il y a une soixantaine d'années T, il a conduit une expédition dans la ceinture à l'initiative d'Astikche et du Consortium des Cinq Lunes. 9 Moravec l'accompagnaient. 3 seulement sont revenus.
Manmuth réfléchit une minute. Il aurait aimé en savoir davantage en matière d'armement. Si les Rogvec décidaient de les tuer, possédaient-ils une arme énergétique ou un missile hypercinétique susceptible de frapper leur vaisseau? Cela semblait improbable, leur vitesse était de 0,193 C, après tout. Il demanda à Orfu.
Quels sont les 4 chemins par lesquels les personnages de Proust ont tenté de parvenir à la résolution de l'énigme de la vie et y ont échoué?
Le grand Moravec éclaircit sa gorge virtuelle.
Premièrement, ils ont suivi leur flair qui les conduisait sur la piste de la noblesse, des armoiries, des privilèges et de la propriété foncière,
répondit Orfu.
Marcel, le narrateur, explore cette piste pendant environ 2000 pages. Il finit par acquérir la conviction que la noblesse de caractère se trouve dans la crème de l'aristocratie. Mais il ne retire rien de celle-ci.
« Excepté le snobisme, » dit Manmuth.
« Ce n'est pas si simple, mon ami, »
émit Orfu, dont la voix commençait à s'animer.
« Proust considérait le snobisme comme le ciment de la société, quel que soit le lieu et l'époque. Il passe la totalité de son livre à l'étudier sous toutes les coutures. Jamais il ne se lasse de ses manifestations.
« Contrairement à moi. »
avoua Manmuth, espérant que son ami ne se sentirait pas insulté. Le grondement subsonique d'Orfu, perceptible même sur leur ligne privée, le rassura sur ce point.
Quel est le deuxième chemin qu'il a suivi pour tenter de résoudre l'énigme de la vie?
Demanda Manmuth.
L'amour.
L'amour?
Les 3000 pages et quelques de la recherche débordaient d'amour, mais celui-ci semblait sans espoir.
L'amour,
tonna Orfu.
L'amour sentimental et le désir physique.
Par amour sentimental, tu entends ce que Marcel, ainsi que Swann, je présume, éprouvaient pour leur famille, pour la grand-mère de Marcel?
Non, Manmuth. Je parle de cette attraction pour les choses familières, pour la mémoire elle-même, et pour les personnes qui occupent le domaine des choses familières.
Manmuth considéra l'astéroïde tournoyant baptisé Gaspra. À en croire les données de Ripo, il lui fallait environ 7 heures standard pour tourner sur son axe. Manmuth se demanda si un tel endroit pouvait devenir une source de familiarité, d'attraction sentimentale pour lui ou pour un quelconque être conscient.
« Eh bien, c'est le cas des mers noires d'Europe. »«
Pardon ?»
Manmuth sentit ses strates organiques le picoter lorsqu'il se rendit compte qu'il avait émis sur la ligne privée.
« Rien. Pourquoi l'amour ne donne-t-il pas la réponse à l'énigme de la vie ?»«
Parce que Proust savait, ce que découvrent ses personnages, que l'amour et son noble cousin, l'amitié, ne survivent jamais à ces lames de l'entropie que sont la jalousie, la lassitude, la routine et l'égotisme, »
répondit Orphu. Pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés en communication, Manmuth crut percevoir une nuance de tristesse dans la voix du grand Moravec.
« Jamais ?»«
Jamais, »
dit Orphu dans un long soupir.
« Te rappelles-tu la dernière phrase d'un amour de Swann ?»« Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai vu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. »
Je l'avais remarqué, mais je ne savais pas si elle était censée être d'une drôlerie souveraine, d'une horrible amertume ou d'une tristesse indicible. Quelle est la bonne réponse ?
Les trois sont bonnes, mon ami. Toutes les trois.
Quel était le troisième chemin censé conduire les personnages de Proust à l'énigme de la vie ?
Manmuth augmenta le taux d'O2 dans son environnement afin de chasser les vrilles de tristesse qui menaçaient de lui étouffer le cœur.
Nous en parlerons une autre fois,
répondit Orphu, percevant sans doute l'humeur de son interlocuteur.
Coros 3 va augmenter le rayon du collecteur et il va y avoir un véritable feu d'artifice sur le spectre des rayons X.
Ils passèrent l'orbite martienne et il n'y avait rien à voir. Mars était de l'autre côté du Soleil, évidemment. Ils passèrent l'orbite terrienne un jour plus tard, et il n'y avait rien à voir. La Terre se trouvait en un autre point de sa trajectoire sur le plan de l'écliptique. Mercure fut la seule planète à apparaître sur leurs écrans visuels, mais ceux-ci étaient déjà envahis par le Soleil, rugissant de toute sa gloire. Lorsqu'ils passèrent au-dessus du Soleil à une périhélie d'à peine 97 millions de kilomètres, évoquant les filaments d'un radiateur traînant un sillage de chaleur, ils replièrent la voile de bord qui regagna son réceptacle. Orphu supervisa la manœuvre effectuée par télémanipulation et Manmuth regarda sur les écrans de contrôle son ami qui allait et venait sur la coque du vaisseau, l'éclat du Soleil faisant ressortir la moindre de ses cicatrices. 2 heures avant l'heure prévue pour la mise à feu des moteurs à fusion, Coros 3, à la grande surprise de Manmuth, invita tous les membres de l'expédition à se retrouver dans le module de contrôle près des collecteurs magnétiques. Le vaisseau n'était pas équipé de corridors. Il était prévu que Coros se rende à bord de la Dame Noire au moyen de câbles et de prises crampons une fois que le vaisseau, ayant achevé sa décélération, se trouverait en orbite autour de Mars. Manmuth hésitait à entamer le périple qui le conduirait dans la salle de contrôle.
« Pourquoi se rassembler physiquement pour discuter ? »
demanda-t-il à Orphu sur leur ligne privée.
« Sans compter que tu ne peux pas rentrer dans ce module de toute façon. »«
Je peux m'amarrer à l'extérieur, vous observer par un hublot et connecter mes câbles au module de contrôle pour sécuriser les communications. »«
Pourquoi est-ce préférable à une réunion sur le réseau interne ? » ?»«
Je n'en sais rien. » Mais la mise à feu aura lieu dans 114 minutes, alors je me propose de venir te chercher pour t'emmener là-bas. »
Et c'est ce qu'il fit. Manmuth était protégé contre le vide spatial et les rayons cosmiques, bien entendu, mais l'idée de se déconnecter du vaisseau et de courir le risque d'être abandonné l'angoissait quelque peu. Orphu le retrouva à l'entrée d'une soute et Manmuth eut droit à une vue inoubliable de la Dame Noire, vivement éclairée par un soleil aveuglant, niché à l'intérieur de l'astronef, comme un requin dans le ventre du kraken. Orphu attrapa Manmuth avec ses manipulateurs et l'inséra dans une niche abritée creusée dans sa carapace, puis se clippa au guide qui lui permettait de contourner le ventre noir du vaisseau, de remonter le long de ses côtes cannelées et d'avancer sur sa coque externe. Manmuth jeta un coup d'œil aux fusiopropulseurs sphériques fixés à la proue comme des pièces rapportées et vérifia l'heure. 1 heure et 4 minutes avant la mise à feu. Il étudia l'équipement de furtivité qui enveloppait le vaisseau proprement dit, une substance poreuse d'un noir de jet qui, en théorie, rendait le bâtiment, exception faite des fusiopropulseurs, de la voile et de quelques autres systèmes, impossible à détecter par visuel, par radar, par réflexion gravitonique, par infrarouge, par ultraviolet et par sonde neutrinique.
Mais quelle importance si nous voyageons 2 jours propulsés par des flammes de fusion?
La salle de contrôle était munie d'un sas. Manmut aida Orfu à connecter son câble sécurisé, puis il franchit le sas et se remit à respirer à l'ancienne.
« Ce vaisseau transporte des armes », déclara Koros III de but en blanc.
Il s'exprimait par ondes sonores. Ses yeux à facettes et sa carapace humanoïde noire reflétaient l'éclat rouge des halogènes. La troisième entité présente dans la petite salle de contrôle pressurisée, Ripo, le minuscule Calistan, se tenait au troisième sommet d'un triangle Moravec.
« Tu as entendu cela ?»
demanda Manmut à Orfu sur leur ligne privée. Le gigantesque ionien était visible derrière les hublots de l'avant.
« Oh oui !»«
Pourquoi nous informer de cela maintenant ?»
demanda Manmut à Koros III.
« J'ai pensé que l'ionien et toi aviez le droit de le savoir. Vos existences sont en jeu. »
Manmut se tourna vers le navigateur.
Tu savais qu'il y avait des armes à bord ?
Je savais que le vaisseau était équipé d'armes défensives, répondit Ripo. Je viens tout juste d'apprendre que des armes seraient transportées sur la surface, mais il était logique de conclure à leur existence.
Sur la surface ?
Répéta Manmut.
Il y a des armes dans la soute de la Dame Noire.
Ce n'était pas à proprement parler une question. Koros III hocha la tête, signe d'assentiment atavique chez les humanoïdes.
« Quel genre d'armes ?»
interrogea Manmut.
« Je ne suis pas habilité à le dire, » répliqua sèchement le Ganymédéen.
« Eh bien, peut-être que je ne suis pas habilité à transporter des armes dans mon submersible, »
contra Manmut.
« Tu n'as pas le choix, » dit Koros III.
Les accents de sa voix étaient plus tristes qu'impérieux. Manmut bouillait intérieurement.
« Il a raison. »
dit Orfu, et Manmut constata qu'il s'exprimait sur le canal général.
« Nul d'entre nous n'a plus le choix. Nous devons aller de l'avant. »
« Dans ce cas, pourquoi nous informer ?»
insista Manmut. Ce fut Ripo qui lui répondit.
« Nous n'avons cessé d'observer Mars depuis que nous sommes passés au-dessus du Soleil. À cette distance, nos instruments confirment l'activité quantique détectée depuis l'espace jovien. »
Mais son intensité dépasse nos estimations de plusieurs ordres de grandeur. Ce monde représente une menace pour la totalité du système solaire.
Comment est-ce possible ?
S'enquit Orfu.
Les post-humains ont expérimenté le saut quantique pendant des siècles dans leur cité orbitale autour de la Terre.
Koros III secoua la tête à l'humaine, une façon des plus pittoresques, bien que le mot ne fût pas celui qui venait à l'esprit de Manmut lorsqu'il considérait l'entité d'un noir luisant au lieu d'insecte.
« Pas à cette échelle, » dit le commandant de la mission. « La quantité d'énergie quantique dépensée sur Mars en ce moment équivaut à celle d'une déchirure dans le tissu spatio-temporel. Il y a danger d'instabilité. Utilisation aberrante de la technologie quantique. »
« Y a-t-il un rapport avec les Voynix ?»
demanda Orfu. Tout ce que les Moraveks joviens savaient des fabuleux Voynix, c'était que la Terre avait émis des signes d'activité quantique d'une intensité sans précédent lorsque les communications neutriniques des post-humains avaient pour la première fois mentionné ces créatures plus de 2000 années auparavant.
« Nous ignorons si les Voynix sont impliqués. Nous ignorons même s'ils sont encore sur Terre. »
répondit Koros sur le canal général.
Je le répète, reprit-il à haute voix. L'impératif éthique me commande de vous informer de la présence d'armes à bord de ce vaisseau et à bord du submersible dans lequel Manmut doit me transporter. Il ne vous appartiendra pas de décider ou non d'utiliser ces armes. La responsabilité m'en incombe tant que je suis à bord de ce vaisseau, et ce sera à Ripo de l'endosser une fois que Manmut et moi aurons été largués sur la surface martienne. Moi seul pourrais prendre la décision de faire usage de la force sur Mars.
Donc, les armes du vaisseau ne sont pas offensives ?
Demanda Manmut.
elles ne doivent pas être retournées sur des cibles martiennes.
Non,
lui répondit Ripo.
Les armes du vaisseau sont purement défensives.
Mais parmi les armes entreposées à bord de la Dame Noire, on trouve des armes de destruction massive ?
Demanda Orfu. Koros III marqua une pause, examinant ses ordres à l'aune des droits de son équipage. Finalement, il répondit
« Oui. »
Manmut réfléchit à la nature de ses armes. S'agissait-il de bombes à fission, de bombes à fusion, d'émetteurs de neutrinos, d'explosifs plasmiques, de bombes à antimatière, de super bombes à trous noirs capables de détruire une planète ? Il n'en avait aucune idée. Durant ses siècles d'existence, il n'avait manié que des armes non létales, comme les filets, aiguillons et galvaniseurs qui lui servaient à écarter les kraken ou à capturer des organismes européens.
« Koros ? »
demanda-t-il.
« Aviez-vous emporté des armes lors de votre mission dans les astéroïdes il y a quelques décennies ?»«
Non, »
répondit le Ganymédéen.
« C'était inutile. Même si l'évolution récente des Moravecs de la ceinture les a rendus féroces et belliqueux, ils ne représentaient aucune menace pour les autres habitants du système solaire. »
Koros III leur rappela le compte à rebours, plus que 41 minutes avant la mise à feu.
D'autres questions ?
Orfu en avait une.
Pourquoi progresser en mode ultra-furtif alors que nous approchons Mars propulsé par 4 moteurs à fusion qui nous rendent aussi visibles qu'une supernova pour toute entité munie d'yeux vivant à la surface de la planète ? Un instant. Tu cherches à susciter une réaction. Tu veux voir s'ils vont nous attaquer.
Oui,
fit Koros.
C'est le moyen le plus pratique d'évaluer leurs intentions. Lorsque les fusiopropulseurs se désactiveront, nous serons encore à 18 millions de kilomètres de Mars. S'ils n'ont pas tenté de nous intercepter à ce moment-là, nous larguerons les moteurs, les torses solénoïdaux et tous les autres engins externes, et nous entrerons en orbite martienne en occultant notre position par des contre-mesures passives. Pour le moment, nous ignorons si les postes humains, ou plutôt les entités qui ont terraformé Mars et y résident actuellement, car nous ne savons pas s'il s'agit des postes humains, ont une civilisation technique ou post-technique.
Manmut médita cette déclaration. Ils allaient larguer tous les engins susceptibles de les ramener chez eux.
Je dirais qu'une activité de saut quantique massive est un signe plutôt technique,
commenta Orfu.
Peut-être, fit Ripo. Mais on trouve aussi des idiots savants dans l'univers.
La réunion s'acheva sur cette déclaration énigmatique. L'air fut évacué de la salle de contrôle et Orfu rapporta Manmut à bord de son submersible dans la soute du vaisseau. Les 4 moteurs s'activèrent à l'heure prévue. Manmut passa les 2 journées suivantes cloué à sa couchette anti-G pendant que le vaisseau se dirigeait vers Mars en s'imposant une décélération de 400G. La soute où se trouvait la Dame Noire était à nouveau fourrée de gel, mais il n'y en avait pas dans son compartiment de vie et il finissait par se lasser de la pesanteur comme de l'immobilité. Manmut se demanda comment Orfu supportait de rester enfermé dans son berceau de coque. Toutes les images en provenance de l'avant étaient occultées par l'éclat des 4 moteurs, y compris celle de Mars, et Manmut tua le temps en visionnant celle de la coque et des étoiles à l'arrière, en relisant des passages de la recherche et en traquant les ressemblances et les dissemblances entre l'œuvre de Proust et ses chers sonnets shakespeariens. Cette passion pour les langues et la littérature humaine de l'ère perdue qu'il partageait avec Orfu n'avait rien d'extraordinaire. Plus de 2000 années auparavant, lorsque les premiers postes humains avaient envoyé les premiers Moravecs dans l'espace jovien pour explorer les lunes et entrer en contact avec les êtres conscients décelés dans l'atmosphère de Jupiter, ils les avaient programmés avec des bandes multisensorielles complexes imprégné d'histoire humaine, de culture humaine, d'art humain. Le Rubicon était déjà survenu, bien entendu, et avant cela, la grande retraite. Mais on espérait encore sauver le souvenir et les archives du passé humain, même si les 9114 derniers humains à l'ancienne, présents sur Terre, n'avaient pas pu être sauvés par le dernier fax. Au fil des siècles qui s'étaient écoulés depuis qu'on avait perdu le contact avec la Terre, l'art, la littérature et l'histoire humain étaient devenus les hobbies de milliers de Moravecs qu'ils travaillent dans le vide spatial ou sur une lune. Hurtzweil, l'ancien équipier de Manmut, détruit 18 années J plus tôt par une chute glaciaire sous un cratère européen du nom de Tir Macula, était passionné par la Bible du roi Jacques. Une copie de ce livre était rangée dans une niche, sous la table de travail de Manmut, à côté de la lampe à lave bien enveloppée de gel protecteur que lui avait offert Hurtzweil. En contemplant sur son moniteur vidéo l'éclat des moteurs à fusion tamisés par les filtres, Manmut tenta d'établir un lien entre l'image qu'il se faisait du Marcel Proust historique, un homme qui avait passé les trois dernières années de sa vie couché dans son lit, dans sa célèbre chambre au mur de Liège, cerné de toutes parts par les épreuves à relire, les vieux manuscrits et les flacons de drogues diverses, ne recevant en guide de visiteurs que des prostituées et des ouvriers chargés de lui installer le premier téléphone en liaison directe avec l'Opéra de Paris. Et Marcel, le narrateur de cette épuisante œuvre de perception qu'était À la recherche du temps perdu. Sa capacité mémorielle était prodigieuse. Il était en mesure d'ouvrir un plan détaillé des rues de Paris en 1921, de télécharger tous les portraits connus de Proust, dessins, peintures ou photographies, d'examiner le Vermeer qui faisait défaillir le personnage de Proust, d'établir une corrélation entre tous les personnages du roman et toutes les personnes réelles que Proust avait jamais connues, mais cela ne l'aidait que médiocrement à comprendre l'œuvre. L'art humain, il le savait, transcende l'être humain. Quatre chemins secrets pour parvenir à la résolution de l'énigme de la vie, avait dit Torfu. Le premier, cette obsession des personnages proustiens pour la noblesse, l'aristocratie, les classes supérieures de leur société, débouchait de toute évidence sur un cul-de-sac. Contrairement au narrateur, Manmut n'avait pas besoin de se taper 3000 pages de dîner en ville pour s'en rendre compte. Le deuxième, l'idée que l'amour puisse être la clé de l'énigme de la vie, lui apparaissait comme fascinant. Proust, tout comme Shakespeare, mais d'une façon totalement différente, s'était très certainement efforcé d'explorer toutes les facettes de l'amour humain, hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, familial, collégial, interpersonnel, ainsi que l'amour que l'on peut éprouver pour certains lieux, certaines choses, pour la vie elle-même. Et Manmut concluait avec Orfu que Proust avait fini par rejeter l'amour comme moyen de parvenir à une compréhension plus profonde de la vie. Le troisième chemin suivi par Marcel était l'art et la musique. Mais s'il l'avait conduite à la beauté, il ne l'avait pas menée à la vérité. Quel est le quatrième chemin? Et s'il n'a mené nulle part les héros de Proust, quel était le véritable chemin caché sous les pages et derrière les pages que l'auteur a peut-être entreaperçu si ses personnages ne l'ont pas vu? Il lui aurait été facile d'appeler Orfu. Les deux amis n'avaient guère communiqué en ce dernier jour de décélération, trop perdus dans leurs pensées peut-être. « Il me le dira plus tard, » songea Manmut. « Et peut-être que je l'aurai trouvé par moi-même à ce moment-là. Et que j'aurai dégagé des correspondances avec l'analyse shakespearienne de ce qu'il y a au-delà de l'amour. » Le barde, lui aussi, avait repoussé l'amour sentimental, romantique et physique une fois parvenu au terme de ses sonnets. Les moteurs à fusion cessèrent de tourner. La disparition de la haute gravité et des vibrations dans la coque était presque terrifiante. Les compartiments sphériques abritant ces moteurs furent aussitôt largués, propulsés par de petites fusées loin de la trajectoire du vaisseau.
Largage de la voile et du solénoïde, déclara la voix d'Orfu sur le canal général.
Manmut observa cette opération sur les moniteurs vidéo alimentés par diverses caméras de coque. Il revint à la caméra de proue. Mars était désormais nettement visible, distante de 18 millions de kilomètres et légèrement en contrebas. Ripo superposait un diagramme de pilotage aux images. Leur approche semblait parfaite. Des petites tuyères ioniques internes ralentissaient le vaisseau et préparaient son injection en orbite polaire.
« Aucune trace de balayage radar ou de capteur durant notre descente, » déclara Coros 3. « Aucune tentative d'interception. »
Manmut songea que si le Ganymédéen était un être pétri de dignité, il avait aussi une propension à enfoncer des portes ouvertes.
« Nous recevons des données via nos capteurs passifs, » déclara Ripo.
Manmut consulta les registres. S'ils avaient été en approche d'Europe ou de toute autre lune occupée par des Moravec, ils auraient capté des ondes radio, des ondes gravitoniques, des micro-ondes, bref, tout un tas d'émissions liées à la technologie. Côté Mars, rien de la sorte. mais la planète terraformée était bel et bien habitée. Le télescope monté sur la proue percevait déjà les bâtiments blancs érigés sur Olympus Mons, les routes rectilignes et sinueuses, les têtes de pierre alignées sur le rivage de l'océan boréal, et même quelques mouvements individuels, mais aucun échange radio, aucun relais micro-ondes, aucune des signatures électromagnétiques caractérisant une civilisation technologique. Manmuth se rappela l'expression utilisée par Ripo. Des idiots savants ?
Mise en orbite martienne prévue pour dans 16 heures, annonça Koros. Nous consacrerons les 24 heures suivantes à l'observation de la planète. Manmuth, prépare ton submersible pour une entrée dans l'atmosphère dans un délai de 30 heures.
Oui, dit Manmuth sur le canal général, se retenant pour ne pas ajouter « chef ». Mars leur parut bien calme pendant la quasi-totalité des 24 heures qu'ils passèrent en orbite polaire. Il y avait des objets artificiels dans le cratère de Stickney, sur Phobos, des engins miniers, les ruines d'un accélérateur magnétique, des dômes d'habitation fracassés et des rovers robotiques, mais ils étaient glacés, rouillés, piquetés de points d'impact et vieux de plus de 3 millénaires. Les responsables de la terraformation martienne n'avaient aucun lien avec les antiques artefacts de la Lune intérieure. Manmuth avait vu des images de Mars du temps où on l'appelait la planète rouge, bien que, selon lui, elle tira davantage sur l'orange. Mais sa palette de couleurs était aujourd'hui plus riche. Lorsqu'ils survolèrent le pôle Nord, captant des images télescopes dont la résolution approchait le mètre, ce qui restait de la calotte glaciaire, dont le matériau se réduisait à de l'eau, le CO2 ayant été sublimé lors de la terraformation, apparaissait comme une île blanche au centre d'une mer bleue. Des nuages se mouvaient en spirale au-dessus de l'océan qui recouvrait plus de la moitié de l'hémisphère nord. Les Highlands étaient toujours orangés, la plupart des masses terrestres étaient brunes, mais on n'avait pas besoin du télescope pour repérer le vert saisissant des forêts et des champs. Personne ne semblait avoir remarqué le vaisseau. Il n'y eut ni appel radio, ni tentative de verrouillage radar, ni faisceau laser, ni requête par modulation de neutrinos. Tandis que les minutes de tension devenaient de longues heures de silence, les quatre Moravec observaient la planète et se préparaient à la descente de la Dame Noire. Il y avait de la vie sur Mars, visiblement humaine ou post-humaine, mais pas seulement. Il fallait aussi compter avec les petits humanoïdes verts qui déplaçaient les têtes de pierre. Des navires aux voiles blanches naviguaient le long de la côte boréale, ainsi que dans les canyons envahis d'eau de Valles Marineris, mais ils n'étaient guère nombreux. On en distinguait quelques autres dans une mer constellée de cratères qui avait jadis été le bassin des Lasses. Il y avait des signes d'occupation évidents sur Olympus Mons, notamment un escalator ultramoderne courant sur le flanc du volcan. Les photos montraient une demi-douzaine de machines volantes près de la caldeira du sommet, et on apercevait aussi des édifices blancs et des jardins en terrasse sur les volcans de Tarsis, Ascraeus Mons, Pavonis Mons et Arcia Mons. Mais pas le moindre signe d'une civilisation d'envergure planétaire. Koros III annonça sur le canal général qu'il estimait à 3000 personnes la population humaine répartie sur les quatre volcans, et à 20 000 celle des ouvriers verts concentrés dans les cités de toile le long du rivage. Mars était quasiment vide. Terraformé, mais vide.
Peut-on vraiment parler de danger pour toutes les formes de vie consciente du système solaire ?
S'enquit Orfu Dio. Ce fut Ripo qui lui répondit.
Observe donc la planète en fonction des relevés quantiques.
Mon Dieu !
S'exclama Manmuth dans son envirocrèche vide. Mars était un globe d'activité quantique d'un rouge éblouissant, avec l'immense majorité des lignes de flux convergeant sur Olympus Mons, le principal de ses volcans.
Se pourrait-il que les machines volantes soient à l'origine de cette agitation quantique ?
Demanda Orfu.
Elles n'ont aucune signature électromagnétique, et elles ne sont sûrement pas propulsées par un système de combustion chimique.
Non. Fit Koros. Bien que ces machines volantes utilisent le flux quantique, ce ne sont pas elles qui le génèrent. Du moins, n'en sont-elles pas la source primaire.
Manmuth considéra l'étrange diagramme quantique pendant une bonne minute, avant de formuler une suggestion à laquelle il réfléchissait depuis plusieurs jours.
Ne serait-il pas raisonnable de les contacter par radio ou par un autre médium? Voire d'atterrir ouvertement sur Olympus Mons? De débarquer en ami plutôt qu'en espion?
C'est une possibilité que nous avons envisagée, répondit Koros. Mais cette activité quantique est si intense que nous jugeons impératif de collecter de nouvelles informations avant de nous montrer.
Collecter de l'information, plus rapprocher de ce volcan nos armes de destruction massive, songea Manmut non sans une certaine amertume. Jamais il n'avait demandé à être soldat. Les Moravec n'étaient pas conçus pour le combat, et l'idée de tuer un être conscient était à l'opposé même d'un programme aussi vieux que son espèce. Néanmoins, Manmut prépara la Dame Noire à sa descente. Il activa les générateurs internes du submersible et déconnecta tous les cordons d'alimentation le reliant au vaisseau, ne laissant brancher que les câbles com qui seraient tranchés lorsqu'il sortirait de la soute. On avait habillé le submersible d'un blindage ultra furtif et des ceintures de réacteurs lui saignaient maintenant la poupe et la proue. Koros 3 en prendrait le contrôle durant l'entrée dans l'atmosphère, les larguant une fois qu'ils auraient accompli leur mission. Dernière pièce rapportée, le chapelet de parachute qui ralentirait leur chute une fois dans l'atmosphère. Koros 3 serait là aussi à la manœuvre. Manmut ne reprendrait le commandement de son submersible qu'une fois celui-ci immergé dans les eaux martiennes.
« Préparation au transfert dans le submersible !»
annonça Koros depuis la passerelle.
« Permission de monter à bord accordée !» répliqua Manmut.
Le commandant en titre ne lui avait pourtant rien demandé. Il n'était pas européen et ne connaissait pas le protocole. Un voyant apprit à Manmut que les portes de la soute venaient de s'ouvrir, exposant à nouveau la Dame Noire au vide, afin que Koros puisse s'y transférer par câble guidé. Manmut activa la liaison vidéo avec la coque pour entrer en contact avec Orfu. L'Ionien remarqua sa présence.
« Nous allons nous quitter quelque temps, mon ami, » dit-il. « Mais nous nous reverrons. »«
Je l'espère, » répondit Manmut.
Il ouvrit le sas inférieur du submersible et se prépara à faire sauter les derniers câbles com.
« Attendez, » dit Ripo. « Quelque chose vient d'apparaître à l'horizon de la planète. »
L'une des caméras de la salle de contrôle montra Koros 3 refermant le sas qu'il venait d'ouvrir pour retourner devant les consoles. Manmut écarta son doigt du bouton déclenchant le feu d'artifice chez les câbles com. Un objet s'élevait au-dessus de l'horizon martien. Pour l'instant, il se réduisait à un éco-radar. Le télescope de proue activa ses cadrans pour le mettre en point de mire.
« Il a dû décoller d'Olympus une fois que nous avons été hors de vue. » dit Orfu.
Je cherche à le contacter, dit Ripo.
Manmut passa en revue les fréquences d'appel. L'objet ne répondait pas.
Vous avez vu ça?
S'exclama Koros 3. Manmut vit. L'objet faisait moins de 2 mètres de long. Un char que ne tirait aucun cheval et qu'entourait un champ de force étincelant. À son bord se trouvaient 2 humanoïdes, un homme et une femme. Apparemment, c'était la femme qui pilotait, l'homme restant là sans rien faire, les yeux fixés sur le vide, comme s'il était capable de voir le vaisseau en mode furtif distant de quelques 8000 kilomètres. La femme était grande, altière, très blonde. L'homme, un peu plus grand qu'elle, avait de courts cheveux gris et une barbe blanche. Orfu fit entendre son rire sur le canal général.
« On dirait une image de Dieu. Mais j'ignore qui peut être sa petite copine. »
Comme s'il avait entendu cette insulte, l'homme leva le bras. L'image vidéo s'embrasa et implosa à l'instant précis où Manmut était projeté sur sa couche antigée. Il sentit le vaisseau frémir à 2 reprises, puis se mettre à tournebouler, et les forces centrifuges se mirent à le balloter de droite et de gauche.
« Est-ce que tout le monde va bien ? »
hurla-t-il sur le canal général.
« Vous m'entendez ?»
Pendant quelques secondes de chaos, il n'eut pour toute réponse que silence et grésillement. Puis, la voix calme d'Orfu résonna parmi les bruits parasites.
« Je t'entends, mon ami. »«
Est-ce que ça va? Le vaisseau est-il touché? Avons-nous riposté ?»«
Je suis endommagé et aveuglé, »
dit Orfu au milieu d'une salve de crépitement.
« Mais j'ai vu ce qui s'est passé avant de perdre la vue. Nous n'avons pas riposté. Mais le vaisseau est... à moitié détruit, Manmut. »«
À moitié détruit ?» répéta bêtement Manmut.
« Que...
une sorte de décharge énergétique. La salle de contrôle, Koros et Ripo, disparus, vaporisés, ainsi que toute la proue. La coque externe est touchée. Le vaisseau tourne sur lui-même au rythme de 2 révolutions par seconde et commence à se disloquer. Ma propre carapace est fissurée. Mes réacteurs ont été anéantis, tout comme la plupart de mes manipulateurs. Je ne cesse de perdre énergie et intégrité. Abandonne le bâtiment avec ton submersible. Vite.
Je ne sais pas comment faire, répliqua Manmut. C'était Koros qui avait le système de contrôle, je ne sais pas.
Soudain, le vaisseau eut un nouveau hoquet et les câbles com et vidéo furent coupés.
Manmut entendit un sifflement strident à travers la coque et comprit que le vaisseau spatial était en train de bouillir tout autour de lui. Il activa les caméras du submersible et ne vit partout que du plasma. La dame noire fut animée de mouvements spasmodiques, mais Manmut n'aurait su dire si elle était autonome ou solidaire du vaisseau mourant. Il activa d'autres caméras, ainsi que les réacteurs sous-marins et le système de contrôle des dégâts. La moitié de son équipement réagissait lentement ou pas du tout.
Orfu ?
Pas de réponse. Manmut activa les masers omnidirectionnels dans l'espoir de se verrouiller sur un faisceau cohérent.
Orfu ?
Toujours pas de réponse. Les convulsions du submersible s'intensifièrent. La soute de la Dame Noire, pressurisée en prévision de l'arrivée de Koros, perdit soudain son atmosphère, imprimant un nouveau spin au submersible.
« Je viens te chercher, Orfu !»
appela Manmut. Il fit sauter le sas interne et se défit de ses sangles. Quelque part derrière lui, dans le vaisseau en perdition ou à bord de la Dame Noire, quelque chose explosa et le projeta violemment contre une console, puis au fond des ténèbres.